Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
On va commencer par le sommaire de cette nouvelle hebdo inédite de Chut, on écoute la télé avec deux coups de cœur ciné. Aujourd'hui, le premier consacré au film La Réparation après Indochine, dont il avait reçu d'ailleurs un Oscar pour le meilleur film étranger. Régis Varnier nous rejoint dans une poignée de secondes. Le deuxième coup de cœur ciné en fin d'émission sera consacré au film Le Mélange des genres, qui sortira également mercredi au cinéma. Michel Leclerc sera avec nous et sera accompagné de Léa Drucker et Melra Media, qui seront toutes les deux avec nous. Et puis nos coups de cœur télé cette semaine consacrés à La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand. L'héroïne Nine d'Urso sera en ligne avec nous pour en parler. Et puis spécial Face à Face, également la série revient demain sur France 3. Cette occasion, la coproductrice Sidonie Cohen de Lara sera avec nous, accompagnée de ses deux comédiennes Claire Borotra et Clémentine Justine, qui seront donc dans l'émission. Et puis en exclu podcast cette semaine, on va reparler de Cimetière Indien, qui a fait son arrivée la semaine dernière sur Canal+. À cette occasion, Marina Dolle et Robin Manella seront avec nous pour en parler. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors on commence tout de suite avec notre spécial La Réparation.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film La Réparation, le nouveau film de Régis Varnier, dont je suis très très fier d'accueillir à mes côtés. Aujourd'hui, après Indochine, on a un réalisateur oscarisé. Et moi, je me rends compte de la chance que j'ai aujourd'hui. Bonjour Régis, merci d'être avec nous.
Bonjour, j'ai de la chance aussi, voilà, de pouvoir parler à vos auditeurs. Oscarisé, oui, d'ailleurs, ça fait 32 ans que je suis le dernier... meilleur film étranger, j'ai failli être détrôné par Jacques Audiard, j'aurais bien aimé d'ailleurs, ou par ça aurait pu être Justine Triel l'année dernière, mais comme la France s'était portée sur un autre choix. Mais bon, un jour ils vont, quelqu'un d'autre va le ramasser. Il est temps, parce que c'est pas normal qu'en 32 ans la France ait pas eu un autre Oscar, je trouve.
Il faut dire que Indochine, ça a été en tout cas une sacrée histoire, une sacrée aventure. Et puis, j'ai l'impression que l'Asie, en tout cas, Régis, c'est un peu un terrain de jeu, on va dire, pour vous, assez sacré. Vous aimez beaucoup tourner là-bas.
Oui, alors est-ce que c'est un terrain de jeu? En tout cas, c'est un terrain de travail, c'est un terrain d'inspiration. Et là, ça, je dirais que ça s'est imposé dans la mesure où le film parle d'un mystère. Enfin, il y a une enquête à faire, parle de gastronomie, et peu à peu, on se rend compte que l'enquête va passer par les indices. Ce seront les saveurs et le goût. Le film commence effectivement en Bretagne, et après, l'héroïne va sur les traces de X en Asie. Alors, ça a été une évidence pour moi par rapport à un film où le fil rouge est la gastronomie, de relier le continent européen et le continent asiatique, parce que je me sens bien en Asie, que dans différents pays d'ailleurs. Et puis surtout pour ce film, j'avais besoin d'une terre de gastronomie, donc la Chine. La Chine populaire, j'y ai fait des repérages, je me suis pas senti tout à fait en confiance. Je me suis dit, ça va être compliqué, censure, surveillance et tout. Et Taïwan s'est imposé, parce que c'est quand même une très grande cuisine. Et puis en même temps, il me fallait, moi, une terre de cinéma. Parce que quand j'écrivais, je me disais, je veux pas emmener une équipe complète, 40 personnes au bout du monde. C'est indélicat par rapport aux gens chez qui on va tourner, parce que ouais. Taïwan, c'est quand même, il y a des grands cinéastes. Hein.
Oui, par rapport aux terres qui vous accueillent, c'est sûr.
Et puis il y a des gens comme Moussa Ossien, Tsai Min-Lang, enfin Edward Yang, donc il y a des techniciens, donc il y a des acteurs. Et je me suis dit, dans ces cas-là, je préfère tourner avec eux, j'aurai un regard moins folklorique, moins touristique, je serai entouré d'une équipe taïwanaise et je serai en immersion. Voilà. Donc ces deux raisons-là, terre de gastronomie, terre de cinéma.
Alors moi, ce que j'ai vraiment apprécié en voyant le film, j'ai eu la chance de le voir il y a maintenant quelques semaines avant sa sortie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui sortent au cinéma. On se dit, tiens, bon, il aurait pu être fait pour la télé, on l'aurait vu à la télé ou au cinéma, ça change pas grand-chose. Là, on a affaire à un vrai film de cinéma avec un peu le temps de contempler des images qui sont absolument magnifiques, des comédiens qui sont magnétiques. On est vraiment là face à un vrai film qu'il faut absolument justement aller voir en salle, qui fait du bien, quoi.
Je dirais c'est ma formation, c'est ma nature, c'est ma structure. Moi je viens du cinéma, dès l'âge de 7-8 ans j'allais au cinéma une ou deux fois par semaine. Voilà, j'ai toujours eu une culture de cinéma, peut-être d'un certain cinéma, le cinéma existe toujours, mais alors c'est aussi une question de moyens. Souvent les gens sont poussés à travailler avec de moins en moins de moyens, on leur demande de faire des économies, de resserrer le temps, de resserrer le budget. Donc finalement, ça, voilà, c'est... Oui, moi, je viens du cinéma, j'ai grandi dans le cinéma. Ça m'a presque sauvé la vie d'aller au cinoche et d'être toujours en échappée ou en évasion avec des histoires qui m'emportaient loin et ailleurs. Voilà, c'est peut-être le secret, loin et ailleurs. Donc, j'ai des fans des grands films américains, j'ai des fans des films de David Lean, des films d'espace, des histoires, des personnages, des sentiments, des émotions, voilà. J'ai l'impression que, je sais pas que ça fait peur aux gens, mais... Ouais. Aujourd'hui, on a aussi pour des raisons économiques, parce que les productions n'ont pas toujours beaucoup de sous. Il y a beaucoup de gens qui s'auto-censurent en écrivant, donc ils resserrent leur histoire, ils resserrent leurs horizons. Ils coupent des scènes en se disant « ça va être trop cher », etc. Donc, et puis je pense aussi ce qui fait, enfin j'espère, c'est ce que vous appelez cette qualité d'image, c'est que j'ai beaucoup tourné en extérieur. Donc j'ai filmé en Bretagne, j'ai filmé dans des forêts, j'ai filmé dans un restaurant, le Moulin de Rosmadec, qui est extrêmement cinégénique, et en Asie aussi. En Asie, on arrive là-bas avec l'héroïne, avec Clara, jouée par Julianne Nunez. Et c'est vrai qu'on est dans ses pas, on est dans ses yeux, on est dans son regard. Donc, on avance comme elle dans une intrigue dont on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Et c'était important pour moi de découvrir Taïwan, Taipei, les environs, la montagne, je dirais, à travers l'enquête de Clara. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit le monteur. Moi, je tournais là-bas, il recevait les images et il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, on part en voyage avec elle. Voilà.
C'est ça qui est génial. Alors, on va suivre le parcours de Pascal Jankowski, qui est un cuisinier, un chef réputé, qui est à l'aube d'avoir sa troisième étoile et qui, lors d'une partie de chasse avec son second, va disparaître dans des conditions mystérieuses. Ce second se trouve être aussi... l'amant caché de sa fille, en quelque sorte. Et donc, sa fille va se retrouver toute seule avec les rênes du restaurant, la harde de presse qui vient la harceler. Donc, ça va être très compliqué pour Clara, sa fille. Et 2 ans après, elle va recevoir une mystérieuse invitation à un festival de gastronomie à Taïwan. Mais de qui vient-elle? Comment va-t-elle remonter tout ça? C'est ce qu'on va découvrir en allant voir la réparation. C'est bien dit?
C'est bien dit et j'en dirai pas plus, sauf que c'est vrai que son père étant une célébrité parce qu'il a du talent, parce qu'il a du caractère, c'est une grande gueule aussi. Elle est belle, elle est jeune et tout d'un coup quand le père disparaît, en plus il disparaît, il obtient la troisième étoile. Donc pour les paparazzi et pour les journalistes, c'est un bonheur. C'est-à-dire qu'il y a une enquête, il y a la disparition d'une vedette de la gastronomie, en plus sa fille qui est toute seule aux commandes du restaurant, comment ça va se passer? Voilà, donc c'est vrai que et sur elle, je dirais, c'est trop lourd, quoi. D'abord, la disparition des deux hommes qu'elle aime, père et amant, et puis ensuite une pression médiatique. Donc, elle va se mettre dans l'ombre, voilà, pour se sauvegarder, jusqu'au moment, comme vous l'avez dit, où elle reçoit un mystérieux message pour une foire là-bas à Taïwan, où son père voulait l'emmener et où son père a appris aussi la cuisine et a développé son talent. Voilà.
On en dit pas tout pour... un jeu de pistes qui va commencer en tout cas pour notre héroïne, sous les belles lumières en tout cas de Taïwan. On va écouter la bande-annonce de La Réparation, ça sort mercredi au cinéma. Régis, on revient juste après, on va parler de ce casting absolument éblouissant, évidemment juste après La Réparation, c'est mercredi dans les salles, on écoute.
Il y a deux règles en cuisine à savoir, l'inspiration, l'audace.
Salut papa.
Antoine, une étoile, tu sais à quoi ça tient?
À ça.
À tout.
T'es belle.
À rien.
J'ai envie de me barrer.
Fais pas ça.
Pascal Jankowski s'est volatilisé avec son second Antoine Desmartins.
Tout ce qui est arrivé, c'est à cause de moi. C'est une telle souffrance.
C'est mieux pour tout le monde si tu t'arrêtes.
J'ai reçu une invitation pour la foire de la gastronomie, à Taipei.
Et t'en déduis que ce message pourrait venir de...
d'Antoine et mon père.
Voilà, La Réparation, le film de Régis Varnier, nouveau film 11 ans après Le Temps des Aveux. Régis est de retour avec ce nouveau film, avec un casting absolument éblouissant. Clovis Cornillac qui joue le chef cuisinier, et puis alors, deux jeunes acteurs qui montent de façon incroyable, et une Julia de Nunes qui est magnétique, qui nous avait envoûté dans Bardo et qui nous emmène encore là dans ce personnage de Clara. Elle est incroyable, cette actrice. Et Julien de Saint-Jean, qu'on avait découvert dans Arrête avec tes mensonges, qui est absolument dinguissime. C'est vrai que ces deux acteurs sont formidables, quoi.
Oui, et puis Julia, elle est, y avait une difficulté pour elle, mais c'est pour ça que je voulais une actrice de sa génération, c'est-à-dire 20-22 ans. C'est important de cette jeunesse parce qu'elle est confrontée à des événements très durs, et que si, parce qu'on m'a demandé de prendre une actrice plus âgée pour faciliter le financement, de prendre une actrice de 30 ans, j'ai dit mais à 30 ans c'est une femme qui sera armée, qui saura se défendre, tandis que là elle est, c'est compliqué pour elle. Et Julia a cette qualité, c'est qu'au début du film on dirait vraiment une adolescente attardée, elle est encore dans l'insouciance, la jeunesse, elle fait des soirées costumées, etc. Ses copains, voilà, pour pas trop en raconter, voilà. Elle est encore romantique, elle est encore, voilà, elle est peut-être.
Sous la coupe de son père, quand même, hein, au début.
Coupe, tout à fait, pas tout à fait consciente de sa beauté et de son charme, effectivement, très attachée à son père qui, en gros, est prêt à la faire hériter de tout, y compris de son talent et de son savoir. Et quand on la retrouve en Asie, c'est vrai que c'est une jeune femme. Voilà, et il fallait une actrice qui pouvait jouer aussi, voilà, une
cette candeur, et puis aussi cette façon d'avoir vécu des choses difficiles, de s'affirmer, quoi.
Voilà, on sent qu'elle est passée par des choses de souffrance, des choses difficiles, et que ça s'appelle la réparation. Voilà. Et je pense qu'elle a donné ça. Et moi, je l'ai rencontrée. J'avais vu d'autres actrices, et puis je l'ai vue pour un casting, mais pas du tout. J'ai pas fait des essais parce que j'avais vu Bardo. Je sais qu'elle peut jouer. Voilà.
Oui, vous l'aviez repérée dans Bardo quand même. Vous avez déjà envoûté là.
Oui. Et puis j'ai passé du temps avec elle. Et vous savez, nous, les metteurs en scène, là, on est face à une actrice qui raconte son parcours, pourquoi elle veut être actrice, d'où elle vient, ce qui lui plaît dans la vie, ce qui lui plaît pas. Et là, à ce moment-là, moi, je la regarde, et je cherche tout d'un coup, un moment, une phrase, un regard dont je me dis, tiens, ça pourrait être le regard de l'héroïne. Voilà. Et voilà, si je chope ça, c'est rassurant, et j'y crois. Voilà. Donc, très vite, je l'ai choisi elle. Et en fait, j'ai pas fait d'essai, mais on a fait une lecture, puis une lecture avec un coach. Je crois que ça lui faisait plaisir de faire ça. Et puis, il y a un autre moment où on travaille de près avec les acteurs, et sans que ce soit asséné, ou sans même qu'ils aient l'impression qu'on les dirige. C'est quand on fait le travail sur les costumes et maquillage, coiffure, parce que on n'arrête pas à chaque scène de parler du personnage, de son évolution, pourquoi elle mettrait ça, comment elle serait habillée, à quel moment elle est, émotionnellement, qu'est-ce que ça veut dire, si elle est coiffée comme ci ou comme ça, et le maquillage. Donc, on a fait ces deux approches-là, lecture, puis préparation style ou stylisme. Et puis après, voilà, elle s'est jetée dans les scènes. Elle connaissait à peine Clovis, je crois qu'ils ont tourné ensemble, ils s'étaient pas vus. Et lui, c'est un régal. C'est-à-dire que, comme il dit, tout se passe entre moteur et coupé. À moteur, il est son père, coupé, il est plus son père. Mais c'est pas grave, il l'est au moment où il le faut. Et puis alors, en plus, elle avait senti qu'il y avait une relation, qu'il y avait quelque chose de, qui pouvait les faire père et fille, la couleur de la peau, la carnation, le regard bleu, voilà, il y a quelque chose, ça marche, quoi. Mais pour moi, c'est très important.
On y croit à fond, oui.
Moi, c'est très important, tout ça. Julien, elle le connaissait pas non plus. Julien, je l'avais effectivement repéré dans deux films, Paradis et Arrête avec tes mensonges. Évidemment, je l'avais engagé avant Monte Cristo. où il s'est fait repérer là par un plus grand public. Et en fait, j'avais écrit ce rôle peut-être pour un personnage plus âgé, en me disant que c'était peut-être plus intéressant pour le père d'avoir un rival plus âgé, moins jeune homme. Et puis, quand j'ai vu Julien, je me suis dit, je lui ai dit, laissez-moi 48 heures, voir si votre jeunesse me convient. Et j'ai pensé que oui, parce que tout d'un coup, avec ce qui leur arrive à tous les deux, avoir 20 ans quand il vous arrive quelque chose d'aussi dur, c'est beaucoup plus bouleversant que si c'est pareil, si c'est des gens qui ont 30 ans, qui en gros ont une maturité qui leur permet d'affronter les choses. Là, c'est très compliqué parce c'est encore des adolescents, quoi.
Il y a beaucoup de scènes de traveling, il y a beaucoup de scènes justement où Julia court, où voilà, elle bouge beaucoup. Ça demande aussi une certaine expérience. Ces équipes justement taïwanaises sont aguerries à ce genre de choses. Est-ce que ça rassure aussi d'avoir des équipes compétentes dans ce domaine-là?
Oh bah oui. Par exemple, il y a pas mal de choses faites au steadicam, mais c'est des steadicams très très élégants. Je veux dire, on se dit pas tiens, c'est la caméra à l'épaule, c'est la caméra glisse comme ça. Le steadicammer, je le connaissais, j'avais fait avec lui la ligne droite, on s'entend très bien. Et à Taïwan, c'est vrai qu'on nous a présenté mais il faut faire confiance. On nous a présenté quelqu'un qui est à la fois machiniste, chef machiniste et steadicammer. Il y a peu de gens qui font ça.
Le directeur de la photographie, taïwanais aussi?
Non, français, parce que comme on a commencé en Bretagne, il me fallait quand même quelqu'un qui fasse la continuité.
Qui suive du début à la fin. C'est incroyable le travail qu'il a fait.
La continuité du film. Mais lui, il a pris des risques. C'est-à-dire qu'il est parti, il est parti à Taïwan sans chef électro, sans chef machino, sans assistant opérateur. Il a accepté l'équipe qu'on lui a donnée. Et ça s'est très bien passé, parce que c'est des gens qui savent travailler. Et puis pour eux aussi, il y avait un challenge de travailler avec des Européens. Mais vous savez, c'est pareil. Que ce soit les équipes techniques ou que ce soit les acteurs, il y a un moment où vous faites travailler ensemble des acteurs asiatiques et des acteurs français, même s'ils parlent pas la même langue. Il y a un moment dès qu'ils jouent, c'est un langage commun. Ils y arrivent.
C'est ça qui est extraordinaire, c'est magique ça.
Ils se reconnaissent, ils se retrouvent, ils se trouvent quoi, voilà.
Régis, combien de temps de tournage?
Il y a eu 10 jours en Bretagne et j'ai fait un 11e jour pour les images ensoleillées de la fin, parce que je voulais que quand elle revient, le monde a changé. Voilà, on n'est plus dans l'hiver et les branches nues, on est au printemps. L'espoir quand même. Et puis, on a tourné 21 ou 22 jours à Taïwan, en sachant qu'à Taïwan, les journées, c'est, contrairement à la France où c'est 8 heures, c'est 11 heures par jour. Ce qui me dérange, moi, ça me dérange pas du tout. Je peux travailler, j'ai aucun problème. Et j'ai apprécié d'ailleurs de travailler, d'avoir des journées plus longues.
Donc oui, même pas 40 jours de tournage pour un film comme ça, quoi. C'est de plus en plus rapide. C'est en fait c'est d'une efficacité redoutable.
Oui, mais préparé. J'ai tout ce qui est dans le film, tout ce que j'ai tourné dans le film. Il y a rien au panier. Alors les scènes sont rythmées, raccourcies, resserrées, mais chaque scène tournée, il y a au moins un plan. Souvent, il y a des gens qui ne font pas ce travail de coupe ou de réflexion en se disant « j'ai pas tellement de temps et d'argent, autant filmer ce qui est vraiment important et nécessaire, avoir le temps pour ça ». Il y a des gens qui foutent 2 semaines de tournage en l'air, quoi. Non, tout est monté, mais bon, c'est l'expérience, c'est des choix, comme dirait Clovis, c'est l'inspiration et l'audace aussi, comme en cuisine. C'est des choix, ça j'ai pas vraiment besoin, ça c'est important, je me concentre là-dessus. Et moi, je prépare beaucoup, j'ai beaucoup préparé, c'est moi. Okay. J'ai fait les repérages en France, c'était pas loin de chez moi. J'ai fait les repérages à Taïwan, j'ai fait 3 voyages de préparation à Taïwan, donc j'arrive archi près, ce qui m'empêche pas de laisser la porte ouverte, c'est dans le film aussi, toujours laisser une porte ouverte à des acteurs qui apportent quelque chose, à un changement de décor, changement d'idée, mais j'arrive avec une base pour pas être battu, quoi.
Incroyable aujourd'hui cette émission, en tout cas, démarrer l'émission avec Michel Leclerc, la finir avec Régis Varnier. J'avoue qu'aujourd'hui je suis comblé et vous allez pouvoir en tout cas découvrir La Réparation, c'est notre 2e coup de cœur ciné aujourd'hui et que vous allez pouvoir découvrir au cinéma dès mercredi, aller le voir en salle, c'est magnifique, vous allez avoir une image superbe. Régis, on va terminer par les projets, est-ce que on va pas attendre 11 ans avant d'avoir le prochain quand même?
Non, mais déjà, moi, je vais attendre la sortie. Vous attendez les projets, moi, j'attends la sortie. Ah ben, j'ai des idées dans la tête, mais à un moment, il faudra que j'en ai 3. Il faudra que j'en choisisse une.
Et à 2 jours, on se sent comment, même s'il y a l'expérience, même si on a réalisateur aguerri, on est comment à 2 jours de la sortie du film, là?
On a fait de son mieux. Les dés sont jetés.
C'est au public de voter.
Voilà, et puis après-demain, le film nous appartient plus. Nous, on vous le donne. Il est là, dans les salles, sur les panneaux. Il vit sa vie et nous on l'a porté au mieux. Voilà, et maintenant qu'il vive sa vie.
On vous a aidé à le porter en tout cas, j'espère. Voilà, allez voir La Réparation. Mercredi au cinéma, merci beaucoup Régis d'avoir été avec nous. Et puis à bientôt, j'espère.
Ouais, à bientôt.
pensez de la cuisine de Diane Lian? Vous pensez comme moi?
C'est le premier véritable indice en 2 ans.
T'épuises pas à courir après des fantômes.
J'aimais deux seuls au monde. Il me rendait invincible.
C'est ma fille. Personne ne me la prendra, t'entends?
Rien pouvait m'arriver. Il m'attend, quelque part.
I don't know what do you want to talk about.
Yes, you know. Answer me, please! Je veux tout savoir. Dis-moi.
Le silence. C'est laisser une porte ouverte.
Allez, bougez pas, dans un instant, Nin D'Urso nous rejoint pour La Rebelle, les aventures d'un jeune George Sand et l'équipe de Face à Face débarque dans Chut, on écoute la télé, à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Ça m'est arrivé de mentir aux gens que j'aime. Pour pas dire quand ça va pas, ça m'est arrivé de sourire. Pour fuir les peines que je traîne derrière moi. Et puis c'est pas facile à dire quand on a peur, quand on n'a pas confiance en soi. Après tout, j'ai quoi à offrir, moi, je sais pas. Mais j'avoue, depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Pourtant, je t'attendais pas, toi mon amour. Et si la vie nous sépare, alors ça ne vaut plus le coup. J'avoue, j'ai pas envie de te dire merci, parce que tu mérites tellement plus que ça, parce que tu m'as sauvé la vie. J'ai qu'une envie maintenant, c'est de la vivre avec toi. Et qu'importe les torrents, les pluies, toutes les épreuves du monde ensemble, on les traversera et on se créera des souvenirs que les autres ne comprendront pas, ne comprendront pas. Mais j'avoue, depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Pourtant, je t'attendais pas, toi mon amour. Puis mon futur, cet amour si fort que je traverse les murs. T'es ma plus grande chance, mon toit, mon armure. T'es ma dernière danse, ce tableau sans rature. T'es mon essentiel, sûrement l'âme la plus belle. T'es ma lumière qui brille, qui m'éclaire. Et si un jour tu pars, si un jour je te perds, n'oublie jamais combien je t'aime. Alors j'avoue, depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Toi mon amour. Et si la vie nous sépare, alors ça ne vaut plus le coup. J'avoue. Mais j'avoue, depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Pourtant je t'attendais pas, toi mon amour. Et si la vie nous sépare, alors ça ne vaut.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré évidemment à La Rebelle ce soir, les aventures de la jeune George Sand, qu'on va découvrir, une fiction en 4 fois 52 minutes dont vous allez découvrir les deux premiers épisodes ce soir à 21h10 sur France 2 avec Nin D'Urso qui est justement en ligne avec nous pour en parler. Bonjour Nin.
Bonjour, je suis ravie.
Merci d'être avec nous. On va presque tout savoir sur la jeunesse d'Aurore Dupin, alias George Sand, qui était une jeune femme en 1831 qui s'est rebellée pour échapper aux violences de son mari et qui est partie à Paris en pleine effervescence romantique après la Révolution. Et puis elle va mener une vie de bohème et ça
Elle va surtout devenir une grande artiste et s'imposer aujourd'hui dans le patrimoine français en tant qu'écrivaine. Et c'est assez dingue, mais on va voir qu'elle a pas toujours vécu des belles choses dès le début. Comment on se prépare à jouer ce rôle, Nine ?
Oh là là, bah d'abord on a très 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 peur, c'est la première étape. Et ensuite, pour jouer n'importe quel personnage, moi je pense qu'il faut travailler beaucoup, mais peut-être encore plus quand il s'agit d'un personnage historique. Et donc, pour appréhender George Sand, je suis vraiment passée par le petit trou du rat de bibliothèque. Et donc, j'ai lu. Et vous savez combien de romans elle a écrit ?
Je sais pas, je dirais entre 150 et 200, moi, mais...
Oh ! Waouh, vous êtes pas mal. Soit entre 70 et 80. Et combien de lettres ?
Ça, je sais pas du tout.
Correspondant ?
Aucune idée.
18 000 !
Ouf !
Et donc, c'est incroyable. Et donc, c'est complètement impossible... en l'espace de 4 mois de préparation, de lire l'intégralité de tout ce qu'elle a écrit, puisqu'en plus, c'était une artiste très polyphonique.
Bah
elle
oui.
a aussi écrit des pièces de théâtre, des nouvelles. Et donc,
elle était habitée par l'écriture.
Elle était habitée par l'écriture. Elle écrivait toute la journée. Vous imaginez ce nombre de romans terminés. Il y en a plus de 70. Toutes ces lettres, toutes ces nouvelles. Et donc, moi, j'ai essayé de lire. Elle a écrit une autobiographie aussi, bien sûr, Histoire de ma vie, c'est fantastique. Et donc, j'ai essayé de m'approcher doucement d'elle en la lisant. Donc j'ai lu son autobiographie, beaucoup de ses lettres et à peu près une dizaine de romans.
Nine, est-ce que tu as eu l'impression à un moment donné en te rapprochant d'elle que petit à petit peut-être l'écriture était un échappatoire pour échapper aux violences de son mari, pour échapper à cette vie où la condition de la femme à cette époque était quand même rudimentaire et compliquée quand même, hein, en France ?
Moi je pense que oui, évidemment que l'écriture a été... pour elle, une source de liberté dans un carcan qui était quand même extrêmement particulier, celui d'un mariage très malheureux dont elle s'est échappée. Mais je pense qu'elle n'écrit pas seulement en réaction à écrire, n'est pas seulement pour se libérer de sa situation, c'est aussi qu'elle a une vision des engagements qu'elle décide de porter. Elle n'écrit pas juste parce qu'elle est enfermée, elle écrit parce qu'elle est habitée et qu'elle est active dans le monde. Elle n'est pas seulement en réaction.
Il y a des scènes compliquées à jouer, à des comédiens qui sont incroyables, mais je pense à Vincent Londez avec qui vous avez partagé quand même beaucoup de scènes
super.
Au début. Il est juste flippant et incroyable, quoi.
Il est terrifiant. Et Vincent Londez joue Casimir, qui est le mari de George Sand, qui était un mari violent. Peut-être qu'il faut prévenir, en fait, la série s'ouvre sur une scène extrêmement, extrêmement difficile de viol conjugal. Oui, les tournées, ces scènes étaient évidemment compliquées, mais pas tant en tant que comédienne, moi, Nine d'Urso, parce que Vincent est un homme charmant, extrêmement attentionné, très bon acteur, qui fait très attention à tout et tout, donc c'est pas difficile à tourner, pas plus qu'une scène de bataille, mais par contre, symboliquement, c'est extrêmement chargé.
Oui, et puis il y a toute la pudeur quand même de la réalisation qui joue aussi de Rodolphe Tissot, où c'est quand même joué avec aussi, c'est filmé avec une extrême pudeur, ces scènes difficiles. Donc,
vous trouvez ?
Ouais, j'ai trouvé quand même qu'il y a quand même une espèce de... Ouais, j'ai trouvé quand même que voilà, c'est ça reste accessible quand même.
Oui, bah bien sûr, après, ça reste... pour la télévision, et je trouve que...
Voilà, qu'on fasse pas peur aux auditeurs.
Oui, non, c'est... Voilà. Ne vous inquiétez pas, tout le monde, normalement, peut regarder la série. Mais oui, je pense qu'il a eu qu'il a trouvé un équilibre très fin entre le fait de complètement dénoncer des situations, et en même temps, il ne montre pas qu'il n'est pas nécessaire d'être montré. Et donc, on avait une espèce de contrat, lui et moi, qui était, on ne montre pas même du corps de la femme, qu'on ne montre pas de l'autre côté du corps de l'homme. J'avais pas envie, et lui non plus, qu'on tombe dans des schémas qui sont malheureusement trop habituels de femmes nues dont on ose montrer la poitrine ou le derrière, alors que les hommes restent souvent plus habillés. Là, il y avait quelque chose de complètement égalitaire dans le traitement de la nudité chez les hommes et les femmes. Et ça, je trouve ça très, très élégant, très honnête de la part de Rodolphe Tissot, le réalisateur.
Exactement, il y a un casting de fou hein, autour de toi, Nina. Il y a Barbara Pravi qu'on adore, il y a Megan Northam que vous avez peut-être découvert dans Rabia et qui vient de sortir d'ailleurs en DVD. Et en VOD, je vous conseille ce film incroyable de Marieke Engelhardt. Et puis David Kamenos, Oscar Le Sage qu'on a reçu dernièrement dans Le Choix du pianiste. Enfin, et puis Joachim Fossi qu'on adore, que vous avez découvert peut-être dans Demain nous appartient. Vous allez voir qu'en Gustave Papé, c'est pas le même.
C'est vrai qu'il a beaucoup... Il a beaucoup grandi depuis Dylan Moreno dans Demain nous appartient. Et donc oui, c'est un casting de fou. Oscar et Joachim sont notamment des amis dans la vie de tous les jours. Megan et Barbara le sont devenus depuis le tournage. Et il y a eu même des retrouvailles qui étaient très très émouvantes avec Igor Mendis, qui est aussi un metteur en scène de théâtre extrêmement talentueux, qui joue le deuxième éditeur de Georges, qui s'appelle François Bulloz. Et en fait, Igor, c'était mon premier prof de théâtre.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, et donc c'était très 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 émouvant de se retrouver, enfin premier prof de théâtre dans l'école de théâtre que j'avais faite à Lille. Et donc c'était très touchant de le retrouver des années plus tard.
Est-ce qu'il y a des projets, Nine, en dehors de Georges Sand? Est-ce qu'il y a des projets théâtre, cinéma, télé, exposition? J'ai cru entendre dire.
Il y a des projets. Alors déjà, moi, je joue au théâtre aussi. Et donc, on est en tournée avec un metteur qui s'appelle David Bobet pour des représentations de Don Juan de Molière. Donc là, on tourne dans les CDN, donc les centres dramatiques nationaux, un peu partout en France. Et là, je suis en tournage, figurez-vous, d'un Capitaine Marlowe.
Ah, bien. Avec José Dayan.
Absolument. Et sinon, moi, j'ai la chance de travailler dans la vie en dehors des plateaux avec Joachim Fossi, que vous connaissez notamment par Dont on appartient, mais pour plein d'autres choses.
Et que t'embrasseras de notre part, d'ailleurs.
Ah, mais que j'embrasse, que j'appelle immédiatement après l'enregistrement de cette émission pour lui dire que je vous ai rencontré et que vous êtes super sympa.
C'est gentil.
Et donc, c'est normal. Avec Joachim, on a un projet et un troisième ami, pardon, qui s'appelle Lucas de Persin. Et on a un projet qui s'appelle La Carte du Tendre, où en fait, c'est une exposition, mais aussi une émission de radio, où on interroge les gens sur leur rapport à l'espace autour d'eux. Donc, pas l'espace, les planètes, et pas l'espace autour d'eux, comme les centimètres, les kilomètres. Enfin, les mesures qu'on connaît, mais sur leur espace sensoriel.
Oui.
Donc, en fait, c'est un peu une exposition dont vous êtes le héros.
C'est génial, ça. Et donc, en podcast, j'imagine?
Oui, on peut nous écouter en podcast. C'est un petit podcast qui s'appelle Fréquence Tendre et qu'on trouve notamment sur SoundCloud et bientôt sur toutes les radios de qualité.
Exactement, donc, l'appel est lancé.
L'appel est lancé, très clair.
Bon, en tout cas, La Rebelle, les aventures de la jeune Georges Sand, c'est ce soir à 21h10 sur France 2. Vous allez voir, c'est assez dingue. Puis on va apprendre surtout plein de choses sur ce personnage qui a traversé le temps et qui a su ne jamais se faire oublier. La première femme écrivaine vive de ses écrits et qui a enchaîné de nombreux succès littéraires et qui a surtout déchaîné des passions, comme vous allez le voir. Et on va s'intéresser justement à des moments difficiles de sa vie, mais pour mieux comprendre l'artiste, certainement qu'elle est devenue iconique aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, Nine, d'avoir été avec nous.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Et à très bientôt.
À très bientôt, à ce soir.
Exactement. Allez, tout de suite, la bande-annonce de La Rebelle.
Je t'en conjure, Aurore, si tu quittes Casimir, il ne supportera pas le scandale.
Le scandale, c'est d'être violée tous les soirs par un homme sous prétexte qu'il est mon mari. Voilà le scandale. Mais puisque cela ne semble pas vous émouvoir, je trouverai seul le moyen de briser mes chaînes.
Tu as donc toujours cette lubie? Qu'y a-t-il de si extravagant à cela?
Existe-t-il des femmes écrivains? Et que peuvent-elles avoir à raconter?
Mais beaucoup de choses.
Ta place est ici, Aurore, auprès de tes enfants. Occupe-toi d'eux et joue du piano, mais cesse de te prendre pour Chateaubriand.
Je suis si fière de toi, Aurore. Pardon, Georges.
Allez, coup de cœur télé consacré à Cimetière Indien, on en a parlé la semaine dernière, on continue à en parler avec le couple de cette série incarnée par Marina Dolle et Robin Manella qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux, bonjour Marina.
Bonjour.
Bonjour Robin.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors vous jouez le rôle de Rudy et de Karen, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Alors tous les deux, vous allez nous parler un peu de cette série, mais surtout aussi ce qui vous a décidé, voilà, à dire oui, à venir sur cette épopée créée par Thomas Bideguin et Thibaut Vanul.
Je pense qu'on n'a pas été très difficile à se décider ou très long, parce que c'était déjà une très très belle série, le scénario est incroyable, le réalisateur est incroyable aussi, Stéphane de Moustier. Le casting s'est passé très vite, on a eu des réponses très vite, ça s'est fait naturellement.
Robin ?
Oui, alors comme disait Marina, on n'a pas mis beaucoup de temps avant de se décider. C'était un oui franc et net.
Une création originale qui nous tombe dessus comme ça, Canal. Quand on connaît la qualité de ce qui se fait, effectivement, pour un acteur, on n'hésite pas longtemps.
Exactement. Là, on connaît la force de frappe des séries Canal+. On connaît la qualité d'écriture. Donc nous, on était très honorés de pouvoir faire partie de ce projet. Et qui plus est, ensuite, une fois qu'on a eu le rôle, on a pu avoir accès plus en détail au scénario, que moi j'ai trouvé absolument époustouflant dans sa construction, dans son ambition. Je trouve qu'on n'a pas l'habitude de voir ça en France, un polar de cette portée, de ce calibre. Donc on a été très contents de faire partie de cette série.
Et puis qui tient en haleine en fait vraiment sur la longueur, sur 8 fois 52 minutes. Et ça, c'est certainement dû aussi peut-être à la traversée des époques que l'on vit dans la série, puisque si vous avez suivi peut-être la semaine dernière, on y suit Lydia en 1995, qui enquête aux côtés de Jean et qui est hantée par des souvenirs de la guerre d'Algérie, parce que c'est aussi ça un peu le fond un peu de cette histoire. Ils vont enquêter sur le scalp d'un imam et 25 ans plus tard, le maire de Peyrane est assassiné dans la même condition. Ça, c'est ce qu'on a vu en tout cas la semaine dernière. Dans quel contexte intervient en tout cas le couple que vous jouez tous les deux? Qu'est-ce qu'on peut dire sur vos rôles? Déjà Karen, est-ce qu'on peut la présenter?
Alors Karen, c'est la petite fille de Jean qui est un ancien gendarme et qui est porté disparu à l'époque actuelle, donc en 2023. Et elle est en couple avec Rudy qui est un père...
Pas au début en tout cas.
On va voir ça au fur et à mesure. On sait que c'est un des couples emblématiques de Cimetière Indien quand même.
On est un duo jusqu'à la fin, du début à la fin de toute façon. Karen, c'est donc la petite fille de Jean, c'est une femme seule dans les faits, qui galère avec son enfant et qui est traversée par un drame terrible, c'est-à-dire la disparition de son grand-père Jean. Voilà.
C'est Lydia, c'est la première qu'elle va aller voir d'ailleurs, hein, Karen, hein, pour le rechercher en tout cas aussi.
Alors c'est Lydia qui va venir chercher Karen. Karen va aller au commissariat, mais on va pas la prendre au sérieux. Donc personne prend sa déposition de disparition. C'est Lydia qui va arriver dans la vie de Karen parce qu'elle connaît Jean du passé, de 95. Et il va se tisser une relation assez distante au début entre Karen et Lydia, où elles vont se serrer les coudes un peu plus au fur et à mesure de la série. Je voulais parler du rythme aussi de la série. Dans le premier épisode, on a un rythme quand même qui est assez soutenu, mais ça s'accélère encore plus au fil de tous les épisodes. Donc c'est assez incroyable, c'est haletant en fait. On a beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues différentes qui sont mêlées, donc il faut bien suivre.
Et beaucoup de sujets aussi différents abordés.
Et beaucoup de sujets, c'est une série complexe, mais très 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 intéressante.
Comment on peut présenter Rudy?
Alors, Rudy donc est le compagnon, en tout cas l'ex-compagnon, on va dire, au début de la série, de Karen, avec qui il a eu une petite fille, dont il essaie de s'occuper tant bien que mal, parce que Rudy, c'est un peu l'archétype du petit délinquant qui fait pas des crimes exceptionnels, mais qui fait pas mal de conneries, qui est assez immature, insouciant.
C'est un petit con.
Voilà, ça c'est dit.
En tout cas, de prime abord, on pense que c'est un petit con. Mais au fil des épisodes, on se rend vite compte que c'est quelqu'un qui est surtout très paumé, très seul, qui a pas forcément les codes classiques pour s'en sortir dans la vie.
Aussi, cache des secrets, va être mêlé un peu, justement, de près ou de loin, à cette histoire de disparition.
Alors, en fait, il va se retrouver mêlé à l'intrigue et à l'enquête du fait de ses conneries. Bien malgré lui, il va se retrouver au cœur de l'intrigue. Et ce que je voulais dire sur Rudy, c'est que c'est quelqu'un qui en fait cache une fébrilité et une vulnérabilité sous son costume de petite racaille. Et c'est ce qui le rend en tout cas très attachant. Et ça, la relation qu'il a avec Karen, d'essayer de la reconquérir, mais il sait pas comment faire, il le fait pas forcément de la bonne manière. Et il y a une phrase super dans la série que dit Karen dans l'épisode 3, que vous verrez ce soir. Karen, elle dit, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il sait pas comment faire. Donc voilà, je trouve que ça résume très bien ce qu'est Rudy en tout cas.
Et ben on va découvrir comment il va se décortiquer de tout ça et comment ce couple va évoluer au fur et à mesure des épisodes, puisqu'on a encore 6 épisodes pour déguster cette série Cimetière Indien, la nouvelle création originale Canal+, c'est depuis lundi dernier, donc vous l'avez bien sûr sur Canal à la demande pour les deux premiers épisodes si vous les avez ratés, et puis vous avez bien sûr aussi les épisodes 3 et 4 ce soir dès 21h. Merci à tous les deux, merci Marina, merci Robin.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Il était poignardé ici. Et il a été scalpé. Pourquoi est-ce qu'on scalpe quelqu'un?
Le scalp, c'est un rite. Celui qui a fait ça va recommencer, c'est sûr.
Qu'est-ce qui s'est passé en 1995?
Ma première enquête sur le terrain. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de choses m'ont échappé.
On a retrouvé l'ADN de votre ami dans la chambre de Mination.
Jean Binifroy.
Non, c'est pas possible. Je vais interroger ces suspects.
Il a 80 ans. Vous pensez vraiment qu'il aurait pu scalper quelqu'un?
Vous pensez toujours que Jean n'a rien à voir avec le meurtre de Mination?
Allez, pour notre plus grand plaisir, notre coup de cœur télé consacré à Face à Face, une série qu'on suit depuis sa toute première saison. Et on est très heureux de voir la saison 3 enfin débarquer demain soir sur France 3 à 21h10, juste après Un si grand soleil. Vous allez découvrir les deux premiers épisodes. Et on a aujourd'hui la productrice, coproductrice avec Sébastien Charby, Sidonie Cohen de Lara. Bonjour Sidonie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a une des deux héroïnes. Et évidemment, une des deux sœurs qui est avec nous, Claire Borotra. On embrasse évidemment Constanzé, qu'on adore. Et évidemment, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va parler de ce duo qui nous régale tellement tous les ans maintenant. Et puis, on a également Clémentine Justine qui est avec nous. Merci d'être là.
Bonjour.
Là, qui est plutôt dans le côté enquête, hein, côté commissariat.
Absolument, côté commissariat.
Alors, Sidonie, c'est une série qui, maintenant, depuis trois saisons, cartonne plutôt quand même sur France 3. La saison 4 est même en tournage. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais quand même en lançant cette série au départ, avec l'affrontement un peu de ces deux sœurs qui n'avaient absolument rien en commun au départ?
Alors on l'espérait fortement et on est super content en effet d'être en tournage de la saison 4.
Claire, c'est toujours une surprise de voir le public chaque année comme ça maintenant donner ce petit rendez-vous annuel.
Ah bah oui, enfin c'est une surprise et puis on remet notre maillot en jeu à chaque fois quand même, hein. Donc on attend à chaque fois la diffusion avec inquiétude et en même temps confiance aussi, parce que c'est vrai que on sent que le public aime cette série et aime cette histoire entre ces deux sœurs et les deux univers que sont le commissariat et le tribunal. À chaque fois on est un petit peu tendu quand même, hein.
En tout cas, moi, je suis sûr que ça va bien se passer. Vous allez voir, demain soir, j'en suis certain, on va découvrir les deux premiers épisodes. Alors, si l'année dernière, le fil rouge, c'était un peu l'arrivée du personnage de Marianne James, qui a mis pas mal la pagaille chez Vanessa. De toute façon, chez les deux.
Elle est venue s'installer à la maison, hein, je vois.
C'était un beau bordel, hein. C'est une tornade, hein, Marianne.
Ah oui, là, j'avoue que franchement, ça faisait beaucoup quand même pour Justine.
Si vous avez raté la saison 2, je vous la conseille quand même vivement à rattraper sur France.tv. Vous allez, je suis sûr, vous régaler. Clémentine, alors puisque toi, c'est la première fois qu'on t'a pour cette série, comment tu te sens sur ce tournage, justement, entre ces deux sœurs-là qui n'ont rien en commun, qui font quasiment tout le temps de s'engueuler, mais à la fois qui sont tellement attendrissantes?
C'est un vrai rendez-vous. On se retrouve avec plaisir, on retrouve les équipes techniques avec plaisir, les comédiens. Il y a vraiment une très chouette énergie qui circule. Tout se passe avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de drôlerie. On s'amuse beaucoup tout en étant sérieux et précis. Et voilà. Donc, moi, je trouve ça très agréable.
Pour celui qui n'a jamais regardé Face à Face, tu nous dirais quoi sur ton personnage? Comment tu le définirais, toi?
Alors, c'est une enquêtrice au commissariat, aux côtés du commandant Ancelin et du commissaire Sarraoui. Et moi, je dirais qu'elle est, elle temporise un petit peu. Vanessa Ancelin, qui a quand même besoin parfois qu'on la calme un petit peu.
Ah bon? Elle est un peu sur les nerfs?
Un peu, oui. Et elle permet, en fait, Claire Sorel, je crois, de faire du lien entre tout le monde, entre le commissaire Sarraoui, qui n'est pas forcément adapté socialement, allons-nous dire, et Vanessa, qui est très tumultueuse. Et Claire, elle lisse un peu et elle fait du lien un peu entre tout le monde.
C'était tellement drôle, depuis le début, de voir ces deux sœurs absolument qui n'ont rien en commun, découvrir qu'elles sont sœurs déjà, mais de les voir non seulement s'étriper, mais aussi s'apprivoiser tout doucement, parce que c'est aussi ça, cette série, c'est pas que des enquêtes, mais c'est aussi deux sœurs qui apprennent à se connaître, à cohabiter, à se découvrir, à vivre ensemble. C'est ça qui est beau aussi, quelque part, dans cette série.
Ah bah oui, c'est ça qui la rend, pour moi, attachante. C'est comme une comédie romantique. C'est deux personnes qui n'ont rien en commun, si ce n'est le fait de se découvrir en effet sœurs, qui sont à l'opposé l'une de l'autre et qui sont attirées aussi l'une par l'autre. Le fait aussi de pouvoir, en tant qu'adulte, essayer de rattraper le temps perdu en essayant justement et en se comportant comme des enfants, et en se disputant, en se rabibochant. On dit souvent, enfin moi j'ai souvent le sentiment que d'une fratrie, dès qu'il n'y a pas d'événement extérieur, tout le monde se dispute, et dès qu'il y a un élément extérieur qui menace quelqu'un de la fratrie, d'un seul coup tout le monde est ensemble. Et je trouve qu'il y a quelque chose comme ça entre ces deux sœurs qui est très très chouette à jouer, et beaucoup de tendresse. Voilà, tendresse, humour, ça fait partie des ingrédients de Face à Face.
L'évolution, Sidonie, de ces deux personnages, de ces deux sœurs, est-ce que c'est quelque chose qui était prévu dès le départ, justement?
C'était pas prévu, l'évolution comme ça. Ça évolue chaque année, et en effet, et je le disais tout à l'heure, on en discute avec les comédiens aussi.
Pour le retour du public, j'imagine aussi.
Et il y a aussi le retour du public, tout à fait.
Je pense que les personnages, ils imposent aussi à leur manière une forme d'évolution. Quand on finit une saison, il y a des choses qui se sont passées, qui nous ont même quelquefois échappé dans ce qui se dégage, dans ce qui se raconte. On contrôle pas tout. Et donc, je pense que les gens qui voient cette saison et qui écrivent la suite se sentent inspirés, et que les personnages décident d'une petite partie de ce qui leur arrive quelquefois aussi.
Il y a des guests
pour cette saison 3, des nouveaux personnages qui vont arriver. On est resté sous un suspense insoutenable à la fin de la saison 2, une histoire de grossesse, enfin, mais mon Dieu, mais que va-t-il se passer dans cette saison 3, Claire?
Bon, ça, il faut la regarder pour savoir.
Bonne réponse.
On est vraiment très original en plus. En effet, Vanessa est enceinte. On l'apprend à la fin de la saison 2. Et donc, une partie de l'enjeu va être de savoir est-ce qu'elle va garder cet enfant ou pas. Est-ce qu'elle le veut? Est-ce qu'elle se sent prête? Et finalement, c'est presque un enjeu à deux. C'est-à-dire que sa sœur, Justine, s'en mêle beaucoup. Et ça devient quasiment un couple qui va décider est-ce qu'on garde l'enfant ou est-ce qu'on garde pas l'enfant. Donc, c'est assez sympa de pouvoir réimaginer des nouveaux enjeux entre ces deux sœurs autour de cette problématique et cet événement.
Et Clémentine, évidemment, le personnage de Claire va encore devoir faire le tampon devant des sautes d'humeur, peut-être de temps en temps, de Vanessa.
Oui, mais on va voir aussi se développer le lien entre... Enfin, pas se développer parce qu'il existe déjà, mais on le voyait pas forcément. Et là, en fait, on va un peu entrer dans l'intimité de leur amitié à Vanessa Tencelin et à Claire Sorel. Et on va les voir un peu en dehors du commissariat. Au fil de la saison, il faudra voir un gros lien, enfin un lien important va se tisser entre elles. Je peux pas en dire plus pour l'instant.
5 semaines, hein, mine de rien 10 épisodes, hein, c'est pas rien tous les ans. Maintenant la saison 4 démarre en tournage, donc il y a déjà plein de surprises qui sont en train de se nouer, hein, évidemment. Et du coup, il y a une espèce de recul quand la saison arrive à l'écran, puisque vous êtes déjà dans le futur.
Exactement, ouais. Bah ça c'est la chance aussi de pouvoir tourner avant d'être diffusé. Mais oui, nous en fait, il faut même qu'on révise quand on vous rencontre parce que c'est déjà très loin derrière nous. Ça va passer demain, mais nous on l'a tourné il y a un an. Donc oui, on est complètement sur ce qui va se passer ensuite. Et c'est vrai qu'il s'en passe beaucoup des choses dans cette série.
On va terminer par vos projets à toutes les trois déjà côté production, Sidonie. Avec Sébastien Charby, qu'on embrasse aussi. Il y a des choses qui se préparent, des belles choses, des séries, des unitaires peut-être.
Des chouettes choses qui se préparent, qui ont terminé de tourner, qui sont en montage. Une mini-série thriller pour France 2.
Qui s'appelle
Je sais pas. C'est l'adaptation d'un livre de Barbara Abel, d'un thriller domestique. Un unitaire de Noël pour TF1 pour le Noël prochain, qui s'appelle Un Noël sans fin, qui est actuellement en tournage, un épisode spécial d'Alice Nevers aussi pour TF1, qui est en montage, et d'autres développements en cours.
Ça, c'est une sacrée surprise. Le retour d'Alice Nevers, il est hyper attendu, et les fans sont taqués, je peux déjà le dire.
C'est vrai ?
Ah oui.
On est ravis d'y participer.
Et on espère qu'il y en aura d'autres, d'ailleurs, épisodes événements comme celui qui nous attend. En tout cas, bientôt, j'espère. Claire, les projets ?
Écoutez, pour l'instant, moi j'organise toujours mon festival qui s'appelle l'Invitation au Voyage, qui est un festival littéraire à Biarritz, donc ça demande beaucoup de travail et je fais beaucoup de travail avec les écoles pour réaliser.
On a les prochaines dates, puisqu'on a des auditeurs à Biarritz.
Et ben voilà, c'est du 11 au 13 octobre. Et après, tout au long de l'année, il y a pas mal d'interventions dans les écoles pour réhabiliter la lecture et l'écriture auprès des enfants. Et c'est pas gagné. Mais on y travaille. Donc il y a des choses aussi que j'attends pour tourner en tant qu'actrice et je pense que je vais bientôt passer derrière la caméra aussi.
C'est chouette ça, puis un petit guest pour Joseph je crois aussi.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi le guest pour Joseph, exactement. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner avec Lucien Jean-Baptiste.
J'imagine. Clémentine.
Donc j'ai tourné dans À qui profite le doute, qui sera diffusé sur France 3, je ne sais pas encore quand. Et sinon j'attends des réponses pour d'autres projets et je suis en train de créer un spectacle jeune public autour du violon. Voilà, autour de la musique.
Tu as bien raison, et puis Face-à-Face saison 4.
Face-à-Face saison 4, et après je suis ouverte à toute
proposition. Merci en tout cas Clémentine, merci beaucoup Claire, merci Sidonie d'avoir été avec nous. On vous dit à très bientôt, Face-à-Face, c'est la saison 3 qui démarre. C'est demain soir à 21h10 sur France 3, juste après votre feuilleton Ainsi Grand Soleil. Merci à toutes les trois.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Qui aime bien, charrie bien.
Je crois que je préférais l'ancienne Justine, la relou.
Solidaire, côte à côte.
Tu serais une mère formidable, Vanessa.
Je passe sous un tunnel, hein.
Encore un tunnel ?
Je les compte plus.
Explosive, face à face.
J'ai dû mentir à la procureure pour vous couvrir, commandant.
Ok, sur celle-là, tu peux m'engueuler, vas-y.
Nouvelle saison, bientôt sur France 3 et sur la plateforme France.tv.
Je t'aime.
Allez, ne bougez pas, dans un instant, on va parler de la sortie du film Le Mélange des genres. Michel Leclerc, Léa Drucker et Mel Rabédia nous rejoignent. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé. les bonus audio et vidéos de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine s'appelle Le Mélange des genres, le nouveau film de Michel Leclerc qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors qu'il y a quelques jours, c'était Baya Kasmi qui était avec nous et qui a participé au scénario, puisque vous écrivez à quatre mains très souvent vos films. Le Mélange des genres est un film féministe, mais pas que. On va y découvrir et faire poser plein de questions à travers ce personnage d'une commissaire de police qui va infiltrer un groupe féministe pour essayer de démanteler une éventuelle complicité de meurtre d'une femme sur son mari. Et c'est tout cet engrenage qui va donc dérouler autour du film. C'est un film qui fait réfléchir, c'est vrai finalement.
Je sais pas si ça fait réfléchir. En tout cas, mon idée, c'était de, effectivement, de parler de féminisme. Vous dites que c'est un film féministe, je ne sais pas. Je pense que surtout, c'est un film qui met en scène un certain nombre de personnages qui sont traversés par tout ce mouvement MeToo aujourd'hui. Et c'était vraiment, moi, mon but, c'était de faire un film, voilà, qui essaye de réfléchir à cette question-là, de faire rire. D'abord et avant tout parce que c'est une comédie, mais aussi de mettre en scène différents points de vue sur cette question du féminisme, des points de vue masculins, des points de vue féminins.
Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en fait pas assez aujourd'hui? Tout ça aussi qui se pose.
Ou qu'est-ce que ça produit chez des hommes, par exemple, qui ne sont pas des agresseurs? Enfin, voilà, c'était vraiment... j'avais envie de m'emparer de ce sujet et d'essayer d'en faire un film qui suscite du débat. Et j'espère que le film suscite du débat, en plus, évidemment, de faire rire. Voilà.
Il faut dire que Michel, ce personnage incarné par Léa Drucker, va être mise à rude épreuve dans cette infiltration, puisque pour sauver sa peau, pour pas se faire démasquer, elle va devoir dénoncer quelqu'un qui n'est absolument pour rien, incarné par Benjamin Laverne, qui va se retrouver au cœur d'un engrenage aussi drôle que touchant. Par moment aussi.
Oui, ben c'est ça. C'est-à-dire que il y avait un peu le modèle de film comme Le Grand Blanc avec une chaussure noire, c'est-à-dire un personnage comme celui de Pierre Richard qui a vraiment rien à voir avec la choucroute, qui est juste la mauvaise personne au mauvais endroit et sur qui tombe comme ça en l'occurrence une accusation et qui se doit se dépatouiller. Or, il se trouve que cet homme est le plus déconstruit des hommes et le plus doux des hommes. Et donc, évidemment, à partir du moment où le personnage de Léa Drucker fait ça, elle s'en veut à mort et elle essaye de réparer sa grande faute d'avoir accusé quelqu'un totalement par hasard. Mais évidemment, on est dans un engrenage et on est dans une comédie, donc ça va de mal en pis.
Et rien ne va se passer comme prévu.
Et rien ne va se passer comme prévu. Et le personnage de Benjamin Laverne hallucine complètement de ce qui lui arrive, quoi. Voilà.
Il y a vraiment un casting de fou. On va recevoir Léa Drucker, Melra Bedia dans un instant, justement. Melra qui joue le rôle justement d'une des féministes, alors complètement old school et complètement lunaire. Et c'est ça qui est drôle. Enfin, comme on la connaît, Melra aussi à la fois.
Oui, c'est ça qu'elle est assez maladroite, c'est-à-dire qu'elle veut à tout prix faire partie de ce collectif féministe, mais elle a du mal à répondre à la discipline de groupe, et donc elle a un peu un électron libre comme ça. Et parce que moi j'adore filmer les groupes, et notamment les groupes politiques. J'adore les ambiances comme ça où chacun se confronte ses idées et en même temps chacun vient avec sa personnalité, son caractère. J'aime bien filmer le bordel comme ça où les idées fusent. Et tout ça, et ça m'intéressait beaucoup de filmer ce groupe qui s'appelle les Hardy dans le film.
Exactement. T'as un petit rôle, dis donc.
Oui.
Metteur en scène.
C'était rigolo de m'octroyer un petit rôle d'un un peu un con. D'ailleurs, en général, dans les petits rôles que je m'octroie, c'est toujours des cons. Donc oui, c'est vraiment un petit rôle de
metteur en scène.
Le metteur en scène qui vire quelqu'un de manière un peu voilà, sans le prévenir. Enfin, c'est pas très joli, quoi.
C'est pas très délicat. Et puis alors, une surprise de taille, je dois t'avouer, mon cher Michel, j'ai découvert le film, moi, il y a quelques semaines en avant-première, et on a découvert une célèbre star académicienne quand même. Marguerite, qui fait aussi ici ses premiers pas de comédienne, et on découvre une autre facette du coup de Marguerite qui a quelques petites scènes bien sympathiques.
Ah ben ça c'est drôle parce que c'est vraiment un hasard, parce que moi je la
tournais bien avant.
Non mais même elle était l'assistante de la casting qui s'occupait des petits rôles du film, et donc elle donnait la réplique aux comédiens et aux comédiennes que je cherchais, et j'ai tout de suite trouvé qu'elle avait un truc. que je trouvais qu'elle jouait bien, qu'elle donnait super bien la réplique. Et donc à un moment donné, évidemment, c'était avant qu'elle aille à la Starac, et je lui ai proposé un rôle. Je lui dis mais non, en fait, je trouve que tu joues super bien et j'ai envie de te proposer un rôle. Et il se trouve qu'après, j'ai appris, mais totalement fortuitement, qu'elle était à la Starac et qu'elle est devenue très connue comme ça. Donc c'est...
elle a des talents, elle a tous les talents, c'est incroyable. On le voit, la comédie, de la chanson, et qu'elle incarne avec brio. Et je lui augure une belle carrière, en tout cas. J'espère aussi bien dans la comédie que dans la musique.
Moi aussi. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de malice, et je la trouve super, vraiment.
Michel, alors Léa Drucker, on le disait, mais après, il y a beaucoup de garçons aussi. Donc Benjamin Laverne nous le disait, mais il y a Vincent Elbaz qui joue un peu quand même le macho de base, hein, le policier de base.
Alors, policier de base, oui. Disons qu'il incarne en tout cas une certaine idée de la masculinité, en fait. Et c'est donc le mari de Léa Drucker. Mais ça va évoluer, c'est-à-dire que curieusement, au contact des féministes qu'elle infiltre, le personnage de Léa Drucker va commencer à se rendre compte qu'elle est quand même dans un milieu assez machiste et qu'elle va remettre en cause même son couple, quoi. Et donc c'est ça. Et donc effectivement, il y a Vincent Elbaz qui joue ce mari de Léa Drucker, qui est quand même assez attachant, mais dont on va comprendre progressivement qu'il a fait quelque chose d'assez impardonnable.
Mais on ne dit rien. Évidemment, Félix Moati, Julia Piaton, qu'on retrouve beaucoup pour des scènes de théâtre aussi, oui. Puisque voilà, les deux personnages jouent ensemble au théâtre, et Julia Piaton et la femme de ce pauvre malheureux qui se fait accuser à tort.
Oui, voilà. Alors,
incarné par Benjamin Laverne.
Oui. Alors Félix, juste voilà, c'est on a fait, je crois, 4 films ensemble, et c'est vraiment comme mon fils. Donc voilà, j'ai proposé ce petit rôle qui lui a bien plu. Et puis Julia Piaton, oui, c'est ce personnage. On a beaucoup réfléchi avec Baya sur ce personnage de la femme de Benjamin Laverne, et toute la question était de savoir jusqu'à quel point elle croit ce qui tombe sur la tête de son mec ou pas. Et c'était important pour moi de faire un personnage attachant, de faire quelqu'un qui est donc complètement troublé par ce qui arrive, qui ne sait pas vraiment le faux du vrai, mais qui veut pas croire que l'homme avec qui elle vit depuis tant d'années est cet homme qu'on décrit et qu'elle ne reconnaît absolument pas. Donc il y avait toute cette dimension autour de ce personnage, d'être fidèle à elle-même ou pas, de toutes ces questions en fait, d'accusations, qu'est-ce que ça produit dans la vie quotidienne des gens, dans l'entourage des gens, et tout ça m'intéressait de traiter ça.
Bon, c'est le pire qui peut vous arriver quand même tous les deux avec Baya, parce que en fait vous écrivez tous vos films à tous les deux à quatre mains, et une fois c'est pas toujours, mais la plupart du temps, et soit c'est l'un, soit c'est l'autre qui réalise, et là il se trouve que les deux films que vous avez tournés pourtant avec beaucoup d'espace sortent avec très peu d'écart entre les deux. Ça, c'est la pire des équations quand même.
Ça, c'est pas très sympa, effectivement, mais évidemment, nous, en tant que réalisateurs, on choisit pas les dates de sortie, c'est pas nous, parce que ça dépend du marché, ça dépend des autres films qui sortent en même temps.
C'est aussi l'occasion d'aller voir les deux au cinéma, du coup.
Ben, exactement.
D'aller voir Mikado et d'aller voir en même temps Le Mélange des Genres.
Les deux films n'ont rien à voir, donc ne sont pas avec les mêmes comédiens, à part Félix. Donc, il y a de quoi aller voir les deux, bien entendu.
Voilà, c'était là que je voulais en venir, évidemment, mon cher Michel. On va écouter la bande-annonce du Mélange des Genres, et puis on va revenir juste après avec Léa et avec Melra, qui vont nous rejoindre pour le meilleur et pour le rire, je pense, parce que je pense qu'il nous attend un bon moment de rigolade avec Melra, justement, aussi, dans un instant. Michel, merci. On se dit à bientôt. Tu prépares la suite, déjà?
Oui, je prépare la suite, ouais. J'espère tourner un prochain film assez vite, en fait. Mais je préfère...
écrit.
Il est fini d'être écrit, et j'espère le tourner d'ici un an. Voilà.
En tout cas, je te remercie de ta confiance, parce que je me rappelle d'un déjeuner ensemble il y a 3 ans où tu m'avais parlé justement de ce sujet sur le féministe et de ce film. Tu m'avais fait confiance. J'ai rien dit, t'as vu, hein. Et en tout cas, merci de ta confiance, et je suis très heureux en tout cas de pouvoir le promotionner avec toi. Le Mélange des Genres, c'est donc mercredi au cinéma. Merci Michel.
Merci beaucoup, merci.
Paul, toi, tu travailles beaucoup moins que Charlotte. Est-ce que tu ressens ça comme une atteinte à ta virilité?
Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous conseille plutôt de prendre les Maxi Confort Plus, si je peux me permettre. C'est vraiment celle que je préfère.
T'es quasiment une femme, quoi.
Non, je suis un homme, moi. Mais un homme complètement démoli.
Déconstruit.
Salut!
Concrètement, là, t'as quoi à leur reprocher pour le moment?
Si j'arrive à prouver qu'elle a eu des complices, le meurtre devient prémédité.
L'idée, c'est de dénoncer les brebis galeuses dans la police. Ils font pas remonter les plaintes des femmes agressées.
Qu'est-ce que tu proposes alors comme action?
Est-ce qu'on pourrait pas arriver avec des petites brebis?
Enfin, l'inclusivité animale, ça mérite d'être débattu.
Attention au gynocentrisme.
Dans ce cas, écoutez-moi, on ne débarque qu'avec des brebis femelles.
Quoi?
Pour la sororité?
C'est déjà des femelles, les brebis.
Allez, on continue notre spécial mélange des genres. Vous avez écouté la bande-annonce. Eh bien, on revient avec nos deux comédiennes qui sont avec nous, Léa Drucker et Melra Bédia. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Qui joue Simone et Sophia, justement. Alors Simone, c'est ce qu'on disait avec Michel il y a quelques instants, c'est cette flic infiltrée dans ces féministes, justement, pour essayer de découvrir si elles ont quelque chose à voir dans un meurtre, si elles sont complices ou pas. Et puis Sophia, c'est un peu l'électron libre, justement, de ce groupe de féministes, celle qu'on ne gère pas. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu dans vos rôles à toutes les deux, déjà, Léa ?
Moi, j'aimais bien son chemin. C'est-à-dire que Simone, elle part d'un point dans le début du film, elle est d'abord assez rigide dans ses convictions, c'est-à-dire qu'elle est convaincue que elle remet même en question un témoignage d'une femme qui vient pour parler de violence. Donc elle est rigide, elle est ancrée dans son système un peu. Et comme elle est infiltrée dans ce collectif parce qu'elle enquête sur une complicité de meurtre, non seulement elle va s'attacher à ces femmes qu'elle côtoie petit à petit, pas tout de suite, et dans son chemin d'enquête. Parce qu'elle fait par une faute grave qu'elle commet, elle va évidemment culpabiliser, essayer de réparer sa faute, réparer sa trahison auprès des femmes et aussi sa faute auprès de Paul, qu'elle a mis dans une situation très très très
délicate.
Ouais, très difficile, ouais.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a quelque chose de très touchant qui s'installe entre vos deux personnages, Melra.
Oui, tout à fait. Bah, moi, je suis un peu l'électron libre, mais un peu l'ingérable, mais je pense bien faire et je veux bien faire. Et je crois que je suis séduite et très touchée par Simone. Et je me dis qu'il y a forcément une histoire derrière et que je veux l'aider. Donc, je suis militante de base, mais je suis un peu en galère. On va pas se mentir aussi parce que je dors au local, tout ça. Et je suis très touchée et j'ai envie vraiment de participer très, très fort à ce militantisme au sein des Hardis. Donc, c'est ça que j'essaye de faire. Alors, je le fais mal, mais je le fais, quoi. En tout cas, j'essaie d'aider à mon petit niveau et voilà, je suis très touchée par Simone. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un truc qui me touche chez elle, je sais pas.
Du coup, Simone est très embêtée d'être aussi touchée par le personnage de Sophia.
Parce que ça va être l'élément déclencheur.
Ça va être l'élément déclencheur et c'est ce qui va la bousculer aussi. Ça va commencer à la bousculer intérieurement. Ça va l'empêcher de faire son enquête correctement et ça va même lui bouleverser son existence.
Alors, parce qu'il faut dire que Simone va, en fait, pour sauver un peu sa couverture, va faire croire que Paul l'a agressé, incarné par Benjamin Laverne, et donc elle va le désigner pour essayer de sauver les choses. Et puis ben c'est Sophia qui va mettre un peu le feu aux poudres. On va pas dire comme ça on va rien déflorer du film, on va pas spoiler, mais c'est elle qui va mettre un peu le feu aux poudres parce qu'elle va vouloir sauver l'honneur de Simone, en quelque sorte.
Je vais vouloir défendre ma sœur du groupe des Hardis parce que je suis persuadée qu'elle fait partie de ce groupuscule avec nous, quoi.
Il y a un casting de fou avec vous, justement.
Enfin, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un film choral. Ouais. Ce groupe, en fait, d'acteurs, d'actrices et de personnages différents dans ce film font que ça permet à Michel de faire une sorte de photographie un peu de plein de points de vue qui s'entrechoquent sur des questions qui nous concernent tous actuellement, qui sont sur les inégalités hommes-femmes. C'est comment chacun se positionne là-dessus, traité par le biais de la comédie.
Et c'est ça qui fait réfléchir peut-être plus justement que ça soit par le biais de la comédie, parce que c'est un film qui fait réfléchir sur le fait que voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on en fait pas trop, est-ce qu'on en fait pas assez, et qui peut être amené à se réfléchir sur comment se positionner dans cette société aujourd'hui, hein, finalement.
Ça, chacun aura son point de vue là-dessus. Moi, je pense qu'on n'en fait pas trop du tout et qu'on n'en fera jamais assez, parce que le chemin est encore long. Et il y a encore beaucoup de choses qui, malheureusement, qui régressent. L'ambition du film, j'essaie de dire ça avec humilité, hein, parce qu'il faut rester humble avec ce sujet, mais en tout cas, c'est d'essayer de nous réunir dans cette conversation, mais sans donner de leçons et sans dire... Je pense que Michel est quelqu'un de très délicat, qui mène ses comédies qui sont parfois piquantes, mais toujours sur un fil. Il cherche pas le cynisme ou la provocation.
Il est connu pour ça.
Voilà. Et il cherche donc à ouvrir ce dialogue. Et j'espère que cette comédie permettra ça. Mais ça ne dédramatise pas les sujets qui y sont abordés.
Quand tu vois des flics arriver, Melra, ne pense pas systématiquement qu'ils veulent t'embarquer du coup. Parce que ça peut te jouer des tours.
Ça pourrait être un autre sujet, hein, un autre film, mais oui, mais je sais pas, moi, c'est ma
première fois. C'est la scène qui m'a fait rire, ça.
Bah, c'était ma première fois, j'étais persuadé qu'ils allaient m'embarquer, donc j'ai voulu sauver le collectif et j'ai fait n'importe quoi, encore une fois.
Bah là, évidemment, voilà, tout le monde s'attache avec des menottes et puis toi, tu jettes les clés, bah oui, bah, en pensant que. Et ça, c'est dès le début du film, donc ça donne vraiment le ton du personnage de Sophia, ouais, qui va être la gaffeuse un peu par excellence.
Tout à fait, je suis la Gaston Lagaffe du féminisme.
C'est pas mal dit. Quelle est votre scène préférée à toutes les deux?
Moi, j'ai beaucoup d'amour et de tendresse pour la scène des brebis avec Léa quand on est enfermé dans le camion.
Ouais, moi aussi, je te rejoins là-dessus. J'aime beaucoup cette scène aussi.
Les brebis n'étaient pas si galeuses que ça, alors?
Non, c'était un peu non. Gueuleuses, des brebis gueuleuses.
C'était des brebis gueuleuses.
Elles nous ont snobées, surtout. Oui, elles nous tournaient le dos. Ouais, Non, nous, on s'est fait petites parce que c'est pas...
Moi, j'avais un peu peur.
Il y en a plusieurs qui m'ont marché sur le pied.
Tu te rappelles celles qui nous regardaient dans les yeux, genre elles nous défiaient du regard?
Non, on était chez elles. On faisait pas les malines. On était dans leur camionnette. Mais non, il y a d'autres scènes aussi, des scènes avec Benjamin. Qui essaie de mener un débat chez lui avec sa femme et la troupe qui travaille avec sa femme, Julia Piaton. Il y a des choses dans le parcours du personnage de Paul qui sont très très belles aussi.
Ouais, c'est d'ailleurs dans cette scène qu'on voit Marguerite, notre star académicienne, qu'on disait il y a quelques instants d'ailleurs. Et Léa, d'ailleurs, cette scène avec les brebis là dans le camion, et ce qui va en découler ensuite, on va pas le dire, mais ce qui va en découler ensuite, ça va être un peu ce tournant, ce switch pour Simone. On va avoir l'impression qu'à la suite de cet incident, c'est à ce moment-là qu'elle change un peu de camp.
Oui, petit à petit, par en pointillé, parce que c'est à ce moment-là qu'elle est touchée par ce que lui dit Sophia et que elle commence à se sentir un petit peu mal à l'aise, dans son rôle de policière infiltrée qui va trahir la cause. Mais après, ça va être tout son chemin de réparation qu'elle va essayer de mener, tant bien que mal.
Du rire, de l'émotion, tout ce qu'il faut pour un bon film et passer un bon moment, en tout cas. Ça s'appelle Le Mélange des genres, c'est mercredi au cinéma. On va terminer par vos projets, à toutes les deux. Mélra ?
Je prépare un espèce de sketch show pour Amazon où c'est un mélange de plein de sketchs et de moi sur scène, donc c'est beaucoup d'humour avec Valérie Le Mercier, voilà.
Est-ce qu'on peut espérer une saison 3 à Miskina ?
Écoutez, elle a été demandée, on va voir si on peut la faire. Il faut juste qu'on s'organise, on est beaucoup d'auteurs et ils ont tous beaucoup trop de succès. Donc c'est une histoire d'agenda, mais on a très envie et je pense qu'on le fera.
Bon, on espère pour 2026 découvrir une saison 3 de Miskina. Et Léa ?
Mais là, je suis en train de tourner un film de Charline Bourgeois-Taquet. J'ai tourné dans le prochain film de Dominique Moll, Dossier 137, et dans un film belge de Laura Vandel, qui sortira à la rentrée, je pense. Voilà.
Vous êtes bien occupés toutes les deux, ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup Mélra, merci Léa d'avoir été avec nous. Le Mélange des gens, c'est mercredi dans les salles, on ne le rate pas.
Merci beaucoup.
Hardy les pas.
Quelqu'un parmi nous les a prévenus.
Attends, genre quoi, il y a une taupe là?
Tolérance zéro pour les balances.
Tu peux nous dire où t'étais hier?
J'ai déposé plainte contre mon violeur.
Il est là, debout, au bar, là.
Une femme m'accuse, et je ne sais pas qui.
On accuse toujours les femmes agressées de mentir. Moi, qu'est-ce que je fais? Je mens.
Si tu te fais choper, elles vont te faire quoi, tes copines?
C'est un prédateur!
Le mari de la célèbre comédienne Charlotte Landowski a de graves accusations portées contre lui.
Il faut dire la vérité, on n'a pas le choix.
Je vous préviens, il se passera rien entre nous.
Non, bien sûr que je passera rien. Il se passe jamais rien avec moi. C'est même ma première qualité.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Il a cartonné à The Voice. Il est en train de faire un parcours sans faille. On espère le retrouver évidemment en demi-finale. Michael Gallo sera notre invité exceptionnel. On parlera également du film L'amour, c'est surcoté, avec Mourad Winter, le réalisateur, qui sera avec nous. Et puis spécial cette nuit-là, mini-série événement de France 2, avec Barbara Probst et Pascal Elbé, qui seront nos invités.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.